Alors, bonjour à tous et je me réjouis de me retrouver ici sur invitation de notre ami, parce qu'il est l'ami du Cameroun aussi, Jean-Luc. Il a fait plusieurs voyages chez nous et comme il m'a présenté, je ne voudrais plus revenir sur cette présentation. Je voudrais dire tout simplement que c'est avec lui que j'ai eu la facilité de, que le DEFAP me donne cette bourse de recherche pour venir à Montpellier. C'est avec lui lorsqu'il était secrétaire général, je crois. Alors je dis merci parce que c'est pas tout le monde qui vient ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Camerounais ici dans cette paroisse, dans cette chapelle, peut-être pas. Je suis réjoui que je sois le premier, si c'est le cas. Bon, alors, je vous apporte des salutations du Cameroun, qui est un pays de l'Afrique centrale, comme vous pouvez l'imaginer, bon, si vous regardez votre carte du monde, qui est un pays à majorité vraiment chrétien, c'est-à-dire il y a des catholiques et des protestants. Il y a aussi des musulmans, c'est vrai. Et les religions du pays, c'est-à-dire traditionnelles. Alors moi, je fais partie de la religion chrétienne. Et comme il l'a dit, je suis pasteur de l'église presbytérienne camerounaise qui est issue de la mission presbytérienne américaine. Donc c'est une église de la réforme, comme vous. Donc je suis marié et père de 3 enfants. 2 filles, les premières, et un garçon, le dernier, 10 ans, 14 ans et 19 ans. Ils sont tous au Cameroun. C'est la première fois que je foule le sol de la France. En tout cas, c'est la première fois que je sors de mon pays. Et j'aurai 50 ans l'année prochaine, c'est-à-dire né en 1970. Alors, c'est tout moi, comme vous me voyez. Merci de m'accueillir dans votre paroisse. J'ai aussi la charge d'une paroisse au Cameroun, au centre de Yaoundé, parce que je suis étudiant encore, comme il a dit, à l'UPAC, à la faculté de théologie. Alors, le sujet que je m'entends suivre, c'est, je ne sais pas si ça va vous intéresser, c'est la croissance de l'Église et le danger de son affaiblissement. Ah, c'est une relecture d'Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 7. Je crois que Madame Céline Romer va bien m'accompagner pour que je puisse arriver au bout de ma réflexion de mon sujet. Alors, je crois que j'en ai terminé pour les présentations. Merci. Chez nous, on parle beaucoup. Donc, moi, je veux m'adapter parce que quand vous sortez d'un village du Cameroun, on aime beaucoup parler parce qu'on n'a plus rien à faire. Mais ici, il faut s'adapter. 5 minutes, il faut déjà se faire entendre. Merci de m'avoir accueilli. Et je pense y revenir, hein, parce que une fois qu'on vous accueille bien, on a l'envie de revenir. Faites-moi revenir la prochaine fois, je ne sais pas quand. Mais ça dépend de vous. Alors, j'ai fini. Maintenant, je lis le texte. Ah, d'accord. Alors, j'ai voulu partager avec vous le texte de l'Évangile selon Luc, en son chapitre 2e, le verset 1 à 15. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 15. J'ai avec moi la version, je vais voir, comment tu l'as appelé? Parole de vie. La version parole de vie. Je vais lire. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y avait des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Amen. Voilà. C'est aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent, si je ne me trompe pas. Et avant-dernier dimanche, justement, de l'Avent aussi. Mais un seul nous sépare de Noël. Un seul dimanche nous sépare de Noël, c'est le 22, le dernier dimanche de l'Avent. Alors, c'est un texte qui généralement est lu le jour même de Noël. Mais moi, j'ai voulu le partager et partager Noël avec vous pour savoir comment prépare-t-on Noël dans nos différentes églises. Et je voudrais qu'on répète « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Est-ce qu'on peut le répéter ?« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Depuis le 1er décembre dernier, premier dimanche de l'Avent, à quelques exceptions près, toutes les églises chrétiennes sont comme en alerte et se sont mises au pas en vue de la célébration de Noël, la célébration de la naissance du Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Jésus, le Christ. Catholiques, protestants de toute obédience et autres familles chrétiennes, rivalise d'ardeur dans ses préparatifs. Certaines dispositions d'ordre pratique voudraient que l'on allume une bougie le premier dimanche de l'Avent, deux bougies le deuxième dimanche, trois bougies le troisième dimanche de l'Avent et quatre le quatrième dimanche qui précède Noël. Et je m'en réjouis de trouver trois bougies ici. Et à Noël, les quatre bougies disparaissent au profit de la lumière des lumières. Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui trône humblement dans son temple. Eh oui, nous avons dit qu'il trône humblement dans une humilité qui se moque même de l'humilité. Et nos états laïcs même, avec leur grande métropole, ne sont pas elles aussi restent par rapport à cet événement planétaire. Allez, à Yaoundé, où je viens, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kinshasa, à Lomé, Abidjan, Cotonou, Paris, Montpellier, même à Anduze, et j'en passe, les artères spécialement illuminées pour la circonstance traduisent la force de l'événement. Oui, toutes les métropoles affichent en ce moment des airs de fête. Est-ce par mimétisme? Est-ce par obéissance à une tradition multiséculaire? Est-ce par snobisme? La question dépasse notre entendement. Les commerçants s'y mettent avec frénésie parce qu'il faut profiter de Noël et parvenir à liquider tous les stocks de marchandises reçues de Dubaï, de Lagos, de Beijing, des États-Unis et d'ailleurs. Pas une seule famille n'est épargnée par la pression fulgurante et de l'acquisition d'un cadeau à offrir aux enfants ou à des amis. Pour nombre d'entre eux, de nos contemporains, particulièrement ceux traversés par la philosophie marxiste-léniniste, Noël, c'est la fête des enfants. Voilà Noël, dans sa forme marchande, commerciale et bling-bling. Noël, c'est une affaire d'argent, un fonds de commerce. Noël, c'est du m'as-tu vu. Mais que nous enseigne le texte de l'évangile de Luc à propos? Nous allons nous autoriser un regard sur ce texte que nous avons lu et chercher à y déceler la véritable face de cet événement polysémique et même polymorphe. De l'avis de beaucoup d'exégètes, aucun autre passage de la Bible sur la naissance de Jésus n'approche ce récit de Luc. On se demande bien où donc l'évangéliste Luc est-il allé chercher ce récit, ce chant inédit? Comment a-t-il pu entendre les anges chanter? Était-ce de façon naturelle ou par le biais d'une inspiration spéciale, je dirais même surnaturelle? Quoi qu'il en soit, le récit de Luc, c'est ce que nous avons de plus beau et de plus expressif sur Noël. Supprimer ce récit de Luc sur la naissance de Jésus-Christ, c'est autant découronner l'évangile. C'est lui enlever tout son goût et toute sa saveur. C'est autant le vider de sa substance, de son contenu, de son esse. Alors, trois temps, selon moi, ponctuent ce récit. La naissance de Jésus, le chant des anges et la réaction des bergers. Mais il m'a plu de focaliser mon regard sur les deux premiers ou les deux derniers temps, le chant des anges et la réaction des bergers. Le chant des anges, c'est au verset 14. Et ce chant des anges, comment se présente-t-il? Il est à la fois simple et saisissant. Dans la nuit de Noël, l'inimaginable s'est produit. La grâce de Dieu, source de tout salut pour les hommes, s'est manifestée. Le ciel a visité la terre. La gloire de Dieu est venue à la rencontre des hommes. Dieu a paru comme un bébé, aussi pauvre, aussi démuni que tous les enfants du monde. Et cela a fait dire à un prédicateur de chez moi, je cite, « Dieu s'est converti ». Fin de citation. À Noël, Dieu s'est converti. Il s'est converti non pas parce qu'il a eu péché, loin de là, il s'est converti, veut dire qu'il s'est fait homme. Il a revêtu la nature humaine pour se rendre accessible, proche de toi, proche de moi. L'infiniment grand s'est fait infiniment petit. Oui, un véritable dépouillement, une kénose, dirait le grec. À la nuit ou aux ténèbres a succédé la lumière. À la tristesse a succédé la joie. À l'oppression a succédé la victoire. Au désespoir, l'espérance. Le cri de joie a retenti. Noël. Venons-en à la réaction des bergers, qui est pour eux une confirmation de l'annonce qu'on leur a faite. Et la réaction des bergers, quelle est-elle face à l'expression crachée de l'inimaginable, de l'incompréhensible, de l'insaisissable, de l'inouï? Oui, face au déploiement du divin. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 15b. Allons jusqu'à Bethléem. Le verbe aller, conjugué ici à l'impératif présent, est très significatif. Il révèle ici tout le sens de la foi. En effet, la foi est une marche permanente, quotidienne. La foi, c'est entrer dans une pratique, un cheminement, une série de ruptures à tous les niveaux de la vie. Professionnel, familial, estudiantine, sociale et religieuse. La foi, c'est sortir chaque jour de nous-mêmes, de nos automatismes, de la routine de nos habitudes, de nos affaires, du temps et de l'argent qui nous avilissent et nous rendent esclaves. La foi, c'est sortir de tout ce qui nous paralyse. À Noël, il s'agit d'un appel à un regard de vérité sur notre vie présente, sur l'aujourd'hui de notre vie. À Noël, il s'agit de faire les comptes, le bilan. Il s'agit de nous engager pour la paix, de nous engager pour la justice, pour la reconstruction d'un monde plus fraternel, plus humain. La célébration de Noël doit raffermir notre foi, notre espérance, dans un monde qui souffre d'une maladie chronique, le désespoir. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Parmi vous, parmi nous, paix parmi nous. Voilà donc le message de Noël. Paix sur la terre, paix entre ceux qui se réclament de Jésus, de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, si l'on se réclame de Jésus. Jésus dépasse tout cela. Mais comment dire Noël en 2019, à une époque disloquée où des hommes et des femmes s'ils assoiffent de tout, assoiffés de vie, assoiffés de paix, assoiffés de justice, assoiffés d'amour, assoiffés de liberté, assoiffés de compréhension mutuelle, assoiffés de joie, assoiffés de vérité, mais aussi assoiffés de haine. Comment dit Noël dans une époque caractérisée par des glissements sémantiques et des confusions éthiques? Comment dit Noël à une époque où le mal s'appelle bien et où le bien s'appelle mal? Comment dire Noël dans une société où le mal est applaudi et le bien honni? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Tel est le message de Noël. La paix et la justice, deux mots qu'on ne peut ni associer ni juxtaposer. Ils s'allient, s'interpénètrent harmonieusement dans une osmose agissante et transformatrice. Pas de paix sans justice et pas de justice sans paix. Frères et sœurs, paix à nous tous. Paix à nous tous. Je vous prie de vous lever et qu'on se salue en signe de paix, la paix que Dieu accorde aux hommes en Jésus-Christ. Pas une paix folklorique. Veuillez vous rasseoir. Noël, c'est l'expression d'un ordre nouveau. C'est l'appel à une responsabilité renouvelée. Noël, c'est quand les hommes se donnent la main pour faire la paix. Noël, c'est quand on s'aide les uns les autres à éviter le mal, à faire le bien. Noël, c'est savoir que la réalité ne changera pas nécessairement, mais que rien n'est fatal ni irréductible. Noël, c'est refuser toute abdication, tout échec, toute servitude, toute résignation, synonyme de la mort de l'esprit. Emmanuel, Dieu avec nous, notre cause est devenue la sienne. Il nous a visités. Pour terminer, notre prière pourrait être celle-ci. Seigneur, fait qu'en ce Noël 2019, nous recevions le Christ, lumière dissipant nos doutes et nos ténèbres, présence écartant notre solitude, voix d'en haut nous remplissant d'espérance et de paix pour un monde meilleur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix à Yaoundé, paix à Rondol, mon village, paix à Bangui, paix à Bamako, paix à Sanaa au Yémen, paix à Kaboul, paix à Damas, paix à Paris, paix à Montpellier, paix à Andouze et paix dans ce village, paix dans nos cœurs. Amen.